chez toi, à une hauteur mesurée entre des murs de matière légère. Les lumières n'allaient pas vers le sol, ni vers le ciel. On les faisait jouer entre elles dans des labyrinthes. Les hommes et les femmes se touchaient peu, comme par des lucarnes. Ils enjambaient les rayons des lanternes. On jouait à trois ou quatre des musiques avant, très lourdes, et pourtant qu'il aurait pu incliner le plateau des Bahamas. C'était partout un campement fragmenté, pas très proche du ciel. On avait admis l'impossibilité de finir. Les plateaux des horloges étaient irréguliers. On parlait peu, d'une voix claire, reprenant les mots comme des balles, le plus longtemps possible, à la manière d'un écho pensant. De camp à camp, on passait sur des cordes tendues, quand le plaisir le voulait. On organisait aussi des tête-à-tête, des repos, des solitudes. Une prévenance discrète accompagnait les soucis, les soignait. Comme des cultures, des étoupes cernées de cornes. Dans l'air que les choses laissaient libres, on circulait autour d'elles. Je me souviens, à travers un losange, de la lumière d'un camp qui ressemblait à celui des nôtres. On entendait les musiques, souvent interrompues, les rires, le bruit des paroles incompréhensibles, et parfois, alors nos yeux se retournaient vers l'intérieur. Certains devenaient tristes, d'autres changeaient. La musique reprenait, les rires, les jeux de mots, les identifications parcellaires. Là-bas ou ailleurs, on nous écoutait. Parfois, une corde de liaison se mettait à bouger. Chacun pourvu de sa petite échelle et d'un quart d'eau très pur. On n'y mettait aucune grenouille. L'imaginer seulement semblait inutile ou à peine excusable chez un fou. Fumer pour nous, c'était avant tout donner un peu de consistance à la lumière. Nous rêvions de moyens analogues qui nous auraient rendu la musique moins contestable et moins vague le regard de ceux d'entre nous que l'amour semblait troubler. Nous connaissions de ces objets où l'on pratiquait la marche. Sur les objets, autant d'ombre que de lumière. Cela nous fortifiait de savoir que la lumière et les choses, si parfaitement unies en apparence, étaient au fond distinctes et toujours sur le point de se séparer. fait des escaliers. S'il menait encore vers le haut et vers le bas, c'était sans le faire exprès. Il nous intéressait autrement. Chaque marche avait l'assurance de notre considération, se dérobait à l'escalier par quelque usage local. Des plateformes, supportées ou suspendues, prolongées au-delà de la rampe. Des panneaux supprimaient la perspective des cages. On soupait sur les paliers. Monter, descendre ne venait à l'esprit de personne. L'ascenseur bougeait, mais nous semblait-il du même mouvement que parfois nos baignoires. Il y avait au nord de la ville un petit vélodrome sans toit. On y débouchait inopinément, le pied sur un dernier échelon, par exemple, ou par une faille dans la paroi d'un corridor. Le plafond, présent partout ailleurs, se dérobait. Cela était pour nous un signe contre les dangers du ciel. Permettions d'exister là comme une seule absence de couvercle. Le plafond partout ailleurs se dérobait. Il nous semblait avoir ainsi réellement limiter les dangers du ciel par la permission que nous lui laissions d'exister là comme cette seule et unique absence de couvercle, aussi parfaitement cernée lui et ses astres que la si fréquente petite coupole de carton peint. Nous avions remplacé par une crainte plus familière notre dégoût pour le compact, ce goût de maintenir un faible écart entre la chose et nous, cette passion qui nous faisait visuel. Avait sa ressemblance dans le dehors. Plusieurs objets, construits ou ramassés, nous devenaient chers à tous par ce même goût qu'il semblait manifester, non seulement d'être à part, mais de s'éviter soi-même, intimement. L'air, la main, parfois l'homme, les traversaient sans dommage, formant avec eux ces agglomérats instables, ces harmonies passagères à quoi le contrepoint musical, sans jamais y trouver son terme, donne machinalement naissance. Nous connaissions aussi de ces objets où l'on pouvait pratiquer la marche, à condition de boiter un peu, de droite à gauche, comme de haut en bas et d'avant en arrière. Il y fallait s'interrompre devant une porte et reculer avec elle, avant d'arpenter du pied le compartiment vierge que ce pas en arrière nous ouvrait. Mais une fois entrée, la disposition ambiguë des cloisons ne nous permettait pas d'affirmer que nous nous trouvions dans une, ou pourquoi pas, entre deux pièces. Cette incertitude nous était légère, légère. Nous rêvions d'une montagne de pierre, qu'une érosion interne eût rendue caverneuse, fragile comme la mousse, praticable à des rois naturels que nous nous savions mal doués pour devenir. Quiconque, par l'écriture, prétendait rendre compte des campements, l'imparfait s'imposait à ses verbes. La résolution que nous avions prise de demeurer irrésolue vous semblez plus tristement que les autres. Impossible à tenir. Une perfection, ni passée, ni présente, sous-tendait notre parole et l'invitait à rendre lumineuse l'imperfection de nos mœurs. Force nous était de la rejeter dans un futur inattendu, mais fatal. Après, nous ne savions quel bouleversement. Un simple déclic de l'imparfait nous rendrait capable de saisir ce que nous ne faisions qu'apprécier, accomplirait la promesse distante que semblaient nous faire les objets. Ceux qui se refusaient à l'expérience de l'encre pressentaient vaguement l'avenir comme un incendie. Nous éprouvions une difficulté toujours renaissante, admettre qu'une chose ne peut se passer d'un support. Simplement abandonner à hauteur d'homme, l'expérience nous avait appris qu'une tasse vide ne tenait pas. Aussi, nous préférions la jeter comme une cloison lointaine. Bien des objets fragiles, pour finir du moins avec aisance, disparaissaient ainsi dans leur trajectoire. La tension de deux ficelles horizontales suffisait parfois à nous donner l'illusion que la chose pesante qu'elle obligeait à rester en l'air s'y maintenait seulement par vertu. Bien sûr, nous ignorions ces camions qui traînent derrière eux leur bruit comme une ferraille inutile. Mais au contraire, la grosse caisse nous intéressait. Car jamais, fut-elle même en tombant, nous ne l'avions entendu se désolidariser du son que tout événement pouvait tirer d'elle. Nous souhaitions à chaque objet de notre monde cette sourde impuissance à émettre un bruit qui ne fut pas l'expression de son caractère, mais sinon la seule, du moins l'unique et la vraie raison d'exister. Cependant, nous avions séparé les couleurs, l'oranger de l'orange, le bleu de l'outre-mer ou du ciel. Ce rouge avait son existence. Il ne se souvenait plus du sang. Le jaune avait cassé la coquille de son œuf. Et pouvions dire que nous en disposions? Non, nous les laissions passer. Odeur mêlée, odeur du bois, odeur du plomb, odeur mêlée, l'odeur du bois, l'odeur du plomb. Comment nommer cette chose? Les caractéristiques dont il était incroyable qu'elle pût se priver sans périr, je les lui vis perdre tour à tour. C'est dire qu'elle se refusait au baptême. Seul ne l'eût peut-être pas trahi un nom aussi qu'eût accompagné, comme un chien son maître, cette particule excédentaire, irréductible, mais changeante comme lui. Sa localisation. aussi nous inquiétait. Sans doute elle eût trouvé définitivement sa place en un centre véritable, car c'était bien ce centre que nous ne cessions de lui chercher. Mais la mobilité des camps eux-mêmes retirait tout espoir d'en finir. À son égard, jamais nous tombions d'accord sur un changement de lieu ou d'état qui nous eût paru préférable. Pourtant, l'un d'entre nous avait le talent de nous rendre unanimes. C'était dans le scandale. Lui seul, proposait la solution provisoire à laquelle aucun de nous ne se fût senti l'audace ni le goût de songer. Mais à peine avait-il avancé la main qu'une illumination subite nous dévoilait à tous la malignité de son projet. Au spectacle qui suivait, nous rougissions. Nos compagnons d'un instant allaient jusqu'à s'exclamer. Lui plutôt nous abandonnait. À la honte collective où nous avait confondu cette sorte de profanation, puis au discours de celle-ci qui ne manquerait pas de laisser derrière soi. Tant cet effet puissant en chacun, le désir de démontrer la supériorité de son remède personnel. Ainsi nous échappait cette chose, et sans la nommer, nous l'acclamions de loin, debout et en silence. Les ustensiles qu'il nous fallait saisir, nous aimions leur trouver une nuance, une prise à laquelle deux doigts à peine fussent nécessaires, une partie qui nous évita d'avoir à soulever le tout à pleine main. Mais ces balles hautaines que nous nous écartions pour voir rebondir entre nous, et dans un prodige d'élasticité, escamoter soigneusement le poids réel. Nous savions que malgré l'apparent caprice de leur route et la majesté de leur démarche, ce serait au fond du trou, au plus bas de la ville, là où nous écœurait de seulement imaginer leur tasse inerte, que notre paume aurait finalement la charge de les ramasser, de les épouser au creux de la bosse, avec la passion anxieuse de les redonner bientôt à la libre circulation des sommets. Leur forme, sans défaut, les désignait à notre désir, mais aussi à notre pudeur, comme les promises de nos mains. Le sol plat, impuissant à rien accepter d'elles sans attendre, à chaque essai de contact les renvoyait dans l'air. Mais nous partageons avec elles rien qu'à les voir bondir, la possibilité d'une tendresse immobile. Ce paradis que nos yeux rêvaient pour le creux de nos mains, comment le creux de nos mains eût-il pu le supporter sans angoisse? La balle trouvait son terme avec le poids des choses mortes. Cette perte de vitesse et d'avenir nous soulevait l'estomac. C'est pourquoi nous avions résolu de ramasser les balles 8 par 8 et de les faire remonter en jonglant. La fuite de nos mains devant l'éventualité d'une jouissance morne, cette déception librement entretenue s'inscrivait dans l'air en une lettre mobile que l'œil, moins capable de gravité, reprenait allègrement à son compte. Telle était l'expérience des balles. On se résignait à voir sans jamais fallu se servir non de ses doigts, mais de ses lèvres. Non de ses lèvres, mais de ses dents. Et de sa digestion. Le monde n'eût pas fait de vieux os. Deux choses qui se touchaient sans pourtant se fondre, comme les gouttes, ou s'entre-dévorer comme les chiens. À quoi donc prétendait-elle ? On les séparait avec de longues baguettes. Superstitieusement, nous ajoutions des yeux à tout ce qui est aveugle et cependant nommable. De ces yeux qui savent si bien remettre à plus tard.
Des groupes restreints se réunissaient autour d'une interrogation. Qu'en
Avez-vous connu ce jeu qui consiste à donner des pierres au vent? Vous donnez des pierres au vent, le vent les emporte. Et longtemps après, lorsqu'il vous les rend, elles sont devenues poreuses, aériennes, plus légères que les feuilles mortes. Les poser à terre est difficile. Et pour qu'elles y restent, il faudrait les mouiller sans arrêt. On ne peut plus faire d'elles ce qu'on veut. Les yeux, disait-on, encore, sont une maladie de l'œil. De petits spectacles représentés sans sucre, sans eau, sans verre, un morceau de sucre qui fond dans un verre d'eau. Mais rien ne comptait. C'était autour de nous ce qui permettait aux choses de disparaître pour un temps. N'avoir avec nous qu'un escabeau sur trois nous plaisait. Ses frères se promenaient donc loin de nous. Et s'il était là, nous devions à la fortune. Parfois le bonheur nous était donné d'en trouver deux réunis. Aller voir cependant, on ne pouvait pas dire que chacun avait l'autre. Chacun avait un frère qui était là, et cela nous suffisait. Peut-être le troisième les rejoindrait-il un jour, au hasard, de l'une de leurs brèves escales. Quelle chance pour ceux qui assisteraient à cette rencontre. Mais que ces tabourets fussent absents tous trois, et tous trois séparés, ne diminuait pas le sentiment que nous avions de leur fraternité aventureuse. Seul, très haut, quand toutes les voix s'étaient éteintes, on arrivait parfois devant un appareil. Immobile d'abord, on l'entendait presque aussitôt bouger. Son bruit net semblait naître un silence à chaque fois nouveau. On restait là, sans idée, sans geste, à respirer lentement devant cette chose qui fonctionnait toute seule depuis des temps lointains. Des câbles l'actionnaient, on savait avoir traversé des distances, des nappes d'eau, de l'air. La contemplation terminée, on se laissait lentement, lentement redescendre vers les voies humaines. Loin de nous assurer contre l'incendie, nous entretenions déjà son éventualité comme un feu. Des courants d'air, des portes, jamais closes, appelaient la flamme à venir. La certitude qu'entre le derrière et le tabouret, nulle flamme ne se déclare, agissait en nous comme un ressort. Si quelque chose un jour commença d'avoir lieu, quelque chose qui devait prendre et bientôt prendre forme et plus tard prendre fin, nous l'avons oublié très vite. Nous ne l'avons pas ramassé, pas raconté. Nous l'aurions évité plutôt et pulvérisé. Nous, à qui le séjour des choses donnait la crainte de les retrouver collées. Rien n'avait commencé, car rien ne devait continuer, rien, dans aucune direction. La terre n'était pas notre sol, notre mère, et certains croyaient savoir que nous devions passer sur elle pour l'alléger. Les aveugles rêvaient à des murs qui n'auraient pas arrêté leurs mains.
Thank you.